VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, le Kenya dans l'attente de la proclamation du vainqueur de la présidentielle. L'opposition crie à la mascarade. Tension au Nigeria, où l'ONU dénonce une fouille illégale par les forces de sécurité nigérianes de son camp à Maïdougouri, épicentre de la lutte contre Boko Haram. En République démocratique du Congo, la société civile accuse Joseph Kabila de renforcer son pouvoir et demande à la commission électorale de publier un calendrier électoral. Surenchère verbale sans précédent entre Washington et Pyongyang, la Chine multiplie les appels à la retenue. Au Bénin, un projet de loi pour limiter les dépenses dans les cérémonies sociales.
Législateur et représentant du peuple que je suis, je ne peux pas rester indifférent à ce genre de situation qui perdure depuis très longtemps.
Ginette Fleur Adandé fera le point pour nous dans la partie magazine. Restez avec nous pour les sports et l'actualité économique, mais tout de suite c'est le journal. Le Kenya retient son souffle dans l'attente de la proclamation du vainqueur de l'élection présidentielle de mardi. Les résultats provisoires publiés jusqu'ici donnent le président sortant Uhuru Kenyatta largement favori face à son rival Raila Odinga qui revendique la victoire. John Lyndon.
Le vainqueur de cette élection ne sera annoncé qu'une fois les résultats des 290 circonscriptions compilés et authentifiés par la commission électorale. À mi-journée, seuls les résultats des 273 circonscriptions étaient reçus. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, l'opposition kényane a demandé à la commission électorale de ne pas précipiter l'annonce du vainqueur de l'élection présidentielle, le temps de bien vérifier les résultats dans lesquels elle affirme avoir décelé de nombreuses erreurs. La commission électorale a jusqu'à mardi pour proclamer les résultats. Les élections générales se sont déroulées dans le calme, mais le climat s'est détérioré à mesure que l'opposition a multiplié ses accusations de fraude. Des violences sporadiques et localisées ont fait au moins 4 morts, ravivant le spectre des scènes meurtrières qui avaient suivi l'élection présidentielle de 2007 et fait plus de 1000 morts et 600 000 déplacés. L'ambassadeur des États-Unis au Kenya s'est joint aux observateurs internationaux de l'Union africaine et de l'Union européenne pour exhorter les Kenyans à la patience et leur leader à recourir aux voies légales prescrites en cas de désaccord.
En République démocratique du Congo, la société civile accuse Joseph Kabila de renforcer son pouvoir au lieu de mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre pour la tenue d'élections avant la fin de l'année. Son rapport publié aujourd'hui dénonce également une évolution à pas de tortue du processus électoral, alors qu'aucune date pour les élections n'a encore été avancée. Le document recommande à la commission électorale de publier toutes affaires cessantes, un calendrier électoral et au président Kabila notamment de faire respecter la neutralité des forces armées, de la police nationale et des services de renseignement. Le rapport reproche aussi à l'opposition d'être incapable d'avoir une position commune. Toujours en République démocratique du Congo, un accord sur le rapatriement à haut risque du corps de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février, a été trouvé entre le pouvoir, sa famille et son parti, selon son entourage familial et politique. Selon un communiqué conjoint, le corps sera exposé au Parlement pour le recueillement ainsi que les hommages officiels et populaires. Il sera inhumé à Lancélé, à 80 km de Kinshasa, et l'État congolais prendra en charge tous les frais relatifs à l'organisation des obsèques. Le rapatriement pourrait intervenir début septembre. Les Nations Unies dénoncent ce qu'elles qualifient de fouilles illégales menées tôt ce matin par les forces de sécurité nigérianes dans leur camp de base de la ville de Maïdougouri. Cette partie du nord-est du pays est l'épicentre de la lutte contre le groupe Boko Haram. Les précisions tout de suite de Jacques Aristide.
L'ONU se dit extrêmement inquiète de cette intrusion dans le camp du Red Roof, où sont basés une grande partie des employés de l'ONU et d'ONG internationales. Pour une porte-parole, cela peut mettre en danger le travail de ces organisations. Se basant sur un mémo interne de l'ONU, l'AFP rapporte que la fouille ferait suite à des rumeurs qui se sont propagées hier sur les réseaux sociaux concernant la présence supposée du chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, dans le camp. Le mémo invite les employés des Nations Nations Unies et des organisations humanitaires à la prudence, prévenant que cette rumeur pourrait conduire à des manifestations contre la présence de l'ONU et des ONG. Une source onusienne considère la fouille comme étant contraire aux lois internationales, pouvant aggraver la méfiance d'Abuja à l'égard de l'ONU et des ONG. L'armée nigériane a confirmé l'envoi de militaires dans une propriété qui a été ensuite identifiée comme occupée par les Nations Unies, bien que cette propriété, dit-elle, ne porte aucun signe de l'ONU.
Jacques Aristide. En Mauritanie, le sénateur Mohamed Ould Gadé a été arrêté aujourd'hui à Nouakchott. Il avait mené la fronde contre la suppression du Sénat, dont le principe a été adopté par référendum le 5 août. Le point avec Morgane Guiriec.
Le sénateur a été arrêté à son domicile aux premières heures de la matinée par deux policiers en civil. C'est ce qu'a affirmé une source policière à l'AFP. Son interpellation a été confirmée par des membres de sa famille qui ont précisé que M. Ould Gadé avait été empêché la veille de traverser la frontière avec le Sénégal voisin où il souhaitait se rendre pour des raisons médicales. La police lui a retiré sa carte d'identité et son permis de conduire et lui a signifié l'interdiction de quitter le pays, a affirmé l'un de ses proches. Deux jours avant le référendum constitutionnel, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, avait fustigé des sénateurs opposés à son projet de modification de la Constitution, les accusant d'avoir partagé de l'argent pris sur des hommes d'affaires pour saper les institutions du pays. Les raisons de son arrestation n'ont pas été officiellement communiquées.
En Éthiopie, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, tire la sonnette d'alarme. Les exploitations des éleveurs de bétail éthiopiens ont été sévèrement touchées par la sécheresse, aggravant la famine dans le pays. La sécheresse a considérablement affecté les moyens d'existence des éleveurs en endommageant les pâturages et en épuisant les sources d'eau, ce qui a entraîné de nombreux décès au sein du bétail ou encore des animaux tombant malades, en particulier dans le sud et le sud-est du pays, affirme la FAO dans un communiqué. Près de 8,5 millions de personnes, soit une personne sur 12 en Éthiopie, souffrent de la faim. C'est ce que rappelle l'agence qui souligne que parmi elles, 3,3 millions vivent dans la région Somalie, dans l'est du pays. 9 enfants soldats ont été remis aujourd'hui au casque bleu présent à Kidal dans le nord du Mali. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'ONU à New York, Stéphane Dujarric. La mission organise leur transport pour Gao et leur prise en charge par des responsables de la protection de l'enfance avant de pouvoir les remettre à leur famille, a-t-il ajouté, sans donner de précision sur l'âge des enfants. En Afrique du Sud, un ministre appelle son parti, l'ANC, profondément divisé, à se rassembler derrière Jacob Zuma. Mardi, une trentaine de députés du parti se sont mutinés en votant pour la motion présentée par l'opposition. Cet acte illustre les profondes divisions au sein de l'ANC, au pouvoir depuis 1994. En décembre, l'ANC doit élire son nouveau leader, qui succédera à Jacob Zuma. Deux noms figurent parmi les favoris, c'est l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, chef des frondeurs anti-Zuma, et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, qui a le soutien du chef de l'État, son ancien époux. En Égypte, au moins 36 personnes sont mortes dans une collision de train dans le nord du pays, près d'Alexandrie. C'est l'un des accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières années. L'accident a également fait 123 blessés. Au Maroc, la situation s'est de nouveau tendue dans la ville d'Al-Hoceima, épicentre d'un mouvement de contestation dans la région du Rif, au nord du pays. Les appels à manifester se multiplient après la mort d'un manifestant mardi des suites de ses blessures.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité internationale, c'est aujourd'hui Donald Trump qui a de nouveau menacé d'employer la force contre la Corée du Nord. Le chef de la Maison-Blanche a affirmé que les options militaires sont en place et prêtes à l'emploi. Cette surenchère verbale sans précédent entre Washington et Pyongyang s'intensifie en dépit des appels à la retenue de la Chine et de l'Allemagne pour tenter de calmer la tension. Salwa Jafari.
Washington et Pyongyang sont plus que jamais à couteau tiré. Donald Trump a encore tweeté ce matin « Les solutions militaires sont maintenant complètement en place et prêtes à l'emploi si la Corée du Nord se comporte imprudemment. J'espère que Kim Jong-un trouvera une autre voie. » Une autre voie pour ce bras de fer, c'est en tout cas ce qu'espère la Chine. Pékin avait tenté de faire retomber la fièvre Elle appelle les États-Unis et la Corée du Nord à faire preuve de plus de prudence et a exhorté Pyongyang à éviter des démonstrations de force. La chancelière Angela Merkel s'est elle opposée vendredi à toute solution militaire et a dénoncé l'escalade verbale entre Pyongyang et le président Donald Trump.
Je suis convaincue que l'escalade verbale n'est pas une solution pour résoudre un conflit. Je ne prévois pas une solution militaire à ce conflit, mais plutôt le travail cohérent que nous avons observé au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Même son de cloche du côté de Moscou, la Russie est très inquiète des risques de conflit très élevés entre les États-Unis et la Corée du Nord, a estimé vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, suggérant qu'il revenait à Washington de faire un premier pas en vue d'une désescalade.
L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, et son rival, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'entente nationale, sont attendus à Moscou demain, samedi. C'est ce qu'a annoncé ce soir Lev Dengov, à la tête du groupe russe de contact sur la Libye. Un tribunal de Haïfa a inculpé aujourd'hui deux Arabes israéliens pour contact avec un agent étranger, membre du groupe État islamique, et possession illégale d'armes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco. Elle vous est ce soir présentée par Dili Diko.
Le Ghana se lance dans la lutte contre les mines d'or illégales, responsables d'importants dommages humains et environnementaux. Selon le ministère des Ressources naturelles, les Galamsey, nom donné à ces mines informelles, auraient coûté 2,2 milliards de dollars de pertes fiscales au pays en 2016. 1 million de mineurs illégaux opéraient au Ghana, dont près de 50 000 étrangers. La stratégie gouvernementale est de développer l'économie rurale, créer des emplois et rediriger les mineurs illégaux vers le secteur formel. Au Zimbabwe, les autorités viennent d'approuver un investissement d'1 milliard de dollars pour la construction d'une université en l'honneur du président Robert Mugabe. Ce qui, selon l'agence Bloomberg, représente un quart du budget national estimé à 4,1 milliards de dollars. Le Zimbabwe étant en pleine crise économique, cette annonce ravive les craintes d'un retour à l'hyperinflation de 2008. La banque import-export des États-Unis, Exim Bank, va débloquer 26 milliards de francs CFA pour la construction et la réhabilitation des stades et des hôtels pour la CAN 2019 que doit organiser le Cameroun. Les travaux seront conduits par l'entreprise américaine Prime Potomac et créeront 800 emplois. Chaque stade disposera d'une mini-centrale solaire pour son illumination.
Place au sport à présent avec vous, Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Alors, on commence avec le Maroc qui est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2026.
Tout à fait, Anastasie. La Fédération Royale Marocaine de Football a annoncé repartir pour une 5e campagne de candidature à l'organisation du Mondial 2026. Le Royaume chérifien se positionne 4 mois après la déclaration de candidature conjointe États-Unis-Canada-Mexique, considérée par les observateurs comme largement favorite pour organiser la première Coupe du Monde à 48 équipes. Le pays du roi Mohamed VI rebelote après ses candidatures de 1994, 98, 2006 et 2010, toutes non concluantes.
5 fois, quelle belle constance. La CAN, Cameroun 2019, Paul Biya se mêle et rassure.
Et oui, le Cameroun sera prêt, je prends l'engagement, à marteler le président camerounais. Des propos tenus après la polémique née de la déclaration du président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a laissé entendre à Ouagadougou que le Cameroun ne sera pas prêt, même pour une CAN à 4 équipes. Du 20 au 28 août, des experts seront en visite au Cameroun pour évaluer la situation et déterminer sur le pays de Paul Biya sera en mesure d'accueillir la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes.
De la CAN, on passe à CHAN. Le dernier tour des éliminatoires du CHAN Kenya 2018 se joue ce week-end et déjà une première équipe est qualifiée.
Oui, Anna, il s'agit de l'équipe de la Guinée équatoriale qui profite du retrait du Gabon qui a déclaré forfait dans la zone du centre. À suivre ce week-end dans cette même zone Afrique centrale, Cameroun version Rigobert Song sélectionnait des Lions indomptables locaux contre Sao Tomé et Principe dans la zone Ouest A, on aura Sénégal, Guinée et Mauritanie, Mali. Dans celle Ouest B, le Bénin reçoit le Nigeria, les éléphants se déplacent au Niger et le Burkina Faso en découdra avec le Ghana au stade du Katuto. Deux affiches et pas les moindres dans la zone Nord, Maroc, Égypte et Algérie, Libye.
Passion Sport, merci Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous. Merci d'écouter VOA Afrique. C'est Le Monde aujourd'hui, deuxième partie, partie magazine, place au dossier. Des diamants centrafricains d'une valeur de 500 millions de francs CFA, soit environ 1 million de dollars, ont été saisis sur un trafiquant britannique d'origine libanaise à l'aéroport de Douala au Cameroun, alors que la République centrafricaine est partiellement suspendue du processus de Kimberley. Cette interpellation fait suite au rapport de l'ONG PAC, Partenariat Afrique-Canada, dénonçant l'incapacité des autorités camerounaises à mettre en œuvre le processus de Kimberley. Félix Yepassi-Zimbrou a joint à Jean-François Mbokoto, pardonnez-moi, secrétaire du processus de Kimberley Centrafrique. Écoutons-le.
En effet, nous avons été informés qu'un malfaiteur qui s'adonne peut-être régulièrement à la fraude a été arrêté au Cameroun, à l'aéroport de Douala, suite à une communication de collaboration entre la police centrafricaine et la police du Cameroun. En effet, ces malfaiteurs sont plus ou moins connus. Certainement, la police était sur ses traces. Dans la collaboration des deux polices, il a été rattrapé au Cameroun. Nous avons aussi appris qu'il est encore dans les locaux de la police. Les autorités du ministère des Mines sont à la recherche des informations complémentaires pour clarifier et initier des mesures à prendre vis-à-vis de cette situation.
Il y a quelques temps, l'ONG PAC dénonçait ce trafic illicite. Quelles mesures ont été prises par les autorités centrafricaines justement à cet effet?
Il faut reconnaître que le problème de la contrebande transfrontalière n'est pas nouveau, mais il prend une dimension particulière du fait de la suspension du processus de Kimberley et la mise de la Russie centrafricaine sous surveillance. Mais les mesures, justement, c'est grâce aux mesures de contrôle et de vigilance que la République centrafricaine a mises en place que nous sommes maintenant capables de, même si les criminels échappent, sur place ici, ils sont vite rattrapés chez nos voisins. Et ça fait partie de la collaboration transfrontalière que les autorités centrafricaines et les autorités camerounaises ont mis en place pour essayer d'endiguer toute cette pratique de contrebande entre ces deux frontières. Mais il y a un travail qui se fait à un très haut niveau, mais aussi au niveau des techniciens et au niveau des autorités judiciaires.
Qu'en est-il à l'heure actuelle des démarches pour le retour définitif de la République centrafricaine dans le processus de Kimberley?
De gros efforts sont déployés par le gouvernement afin d'abord, dans un premier temps, de sécuriser et de maintenir les 5 zones conformes qui ont été confirmées par le processus de Kimberley, étendre ces 5 zones-là de conformité sur toute la partie ouest, éventuellement que l'autorité de l'État revienne sur la partie est du pays, qui est totalement exclue un peu en ce moment de contrôle. Mais dès que l'autorité de l'État va être rétablie au niveau de Bria et de Samwanda et ainsi de suite, les mêmes efforts seront faits pour que définitivement l'État reprenne entièrement sur son territoire le contrôle de la production de la commercialisation du diamant. Nous ne pouvons pas actuellement demander la levée totale parce que nous savons pertinemment que l'État ne contrôle pas encore une partie du pays. Mais dès que l'État sera en mesure, il n'y a aucun problème à cela.
C'était François Mbokoto du processus de Kimberley Centrafrique. Rappelons que le processus de Kimberley est un mécanisme international permettant de tracer les diamants commercialisés dans le monde afin d'éviter qu'ils servent à financer les guerres.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Le Tchad a décidé de mettre en application la libre circulation des personnes et des biens au sein de la zone CEMAC. Les chefs d'État du Tchad, du Cameroun, de la RCA, du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale avaient pris la décision lors d'un sommet en 2013, mais les pays traînaient les pieds pour sa mise en œuvre. Pour analyser les répercussions de cette annonce de N'Djamena sur la région, Abdourahmane Dia a joint à Yaoundé le professeur Jean-Emmanuel Pondy.
Il convient de préciser que ce que le Tchad vient de faire n'est qu'en régularisation de sa pratique habituelle. Parce qu'en fait, s'il est vrai qu'il y a quelques petits problèmes avec quelques autres pays, dans la région de la CEMAC, par exemple, Le Tchad, tout comme la RCA, tout comme le Congo, Brazzaville, ne pose aucun problème de circulation par rapport à un pays comme le Cameroun. Si vous avez votre titre tel que la carte d'identité, vous pouvez entrer sans aucun problème au Tchad, sans aucun problème en Centrafrique et sans aucun problème au Congo aujourd'hui.
Et pourquoi des pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale et aussi le Cameroun semblent réticents ou en tout cas traînent les pieds pour appliquer cette mesure?
Ça relève de ce qu'on appelle en fait, c'est dans toute organisation et comme celle de la CEMAC, d'intégration, il y a toujours des pays qui estiment que parce qu'ils sont un pôle d'attraction économique et d'investissement, ils risquent d'y avoir une ruée d'autres personnes venant de pays plus pauvres vers ces pays-là. Et en fait, les études économiques montrent que c'est faux. C'est faux. Mais c'est une phobie qu'on retrouve. Et un pays comme la Guinée équatoriale, par exemple, a vraiment été victime de ce syndrome où ils pensaient que tout le monde allait vers eux. Mais la Guinée équatoriale n'est pas la seule. Vous avez cité les autres pays, c'est-à-dire le Gabon et le Cameroun. Ce sont les trois pays qui, dans la CEMAC, ont opposé quelques résistances à cette doctrine de la libre circulation des biens et des personnes.
Justement, le Gabon et la Guinée équatoriale sont des pays producteurs de pétrole et on a vu la baisse des cours du pétrole. Est-ce que cela peut influer un peu sur leur position et les pousser à accepter ce principe de libre circulation des personnes et des biens?
Est-ce que je suis en train de dire que paradoxalement, ça risque d'avoir un effet positif? Ils ne sont plus le centre, disons, d'intérêt des investisseurs comme ça avait été le cas quand ils étaient en pleine croissance économique je dirais peut-être même vertigineuse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense que ça va jouer vers une sorte de baisse de tension avec leurs voisins qui ne seront plus considérés comme voulant se ruer vers eux.
L'analyse du professeur Jean-Emmanuel Pondy, joint à Yaoundé.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Un projet de loi pour recadrer les dépenses onéreuses dans les événements sociaux au Bénin, notamment les mariages, les funérailles et autres cérémonies. C'est ce que nous rapporte tout de suite notre correspondante sur place, Ginette Fleur Adandé.
Au Bénin, certains ont du mal à comprendre comment il était possible de passer de la tristesse la plus grande à la réjouissance la plus intense pendant les funérailles. C'est le cliché que projettent bon nombre de funérailles où les pleurs au cimetière en l'espace de 2 heures laissent place au fou rire, à la danse et au chant de joie. Beaucoup mettent même en gage leurs biens les plus précieux dans le souci de montrer, disent-ils, leur force de frappe ou encore que la postérité se charge de parler d'eux et de leur capacité à organiser des fêtes mémorable. C'est donc pour recadrer les choses que tout en se basant sur une ordonnance de 1967 sur les cérémonies ruineuses, le député Nazé Sadou dit avoir réfléchi sur une proposition de loi capable d'empêcher que les pauvres s'endettent pour paraître.
Régulièrement, on apprend que les gens vendent des terrains pour pouvoir enterrer leurs morts, mais presque jamais pour financer l'étude des enfants ou pour soigner quelqu'un parce qu'il est malade. Législateur et représentant du peuple que je ne peux pas rester indifférent à ce genre de situation qui perdu depuis très longtemps.
La loi interdirait aussi la consommation d'alcool et les grandes réjouissances dans le cadre des funérailles qui, dans certaines contrées du Bénin, durent plusieurs semaines. Ibrahim, lui, reconnaît par contre à sa juste valeur les préoccupations du député, mais refuse de comprendre qu'on puisse passer par une loi pour empêcher ces genres de dérapages qu'on observe pendant les cérémonies.
Lorsque une personne décide d'engager des millions, des milliards dans l'inhumation d'un proche, dans le baptême de son enfant ou dans son mariage, ça n'engage que cette personne, strictement. Et si plus tard, il y a des dettes à éponger, l'État n'est pas sollicité, les fonds publics ne sont pas sollicités pour éponger ces dettes.
Olivier est un infirmier exerçant en campagne. Il dit avoir été le témoin de ces genres de cérémonies pendant lesquelles des personnes qui, ordinairement, ne peuvent joindre les deux bouts s'endettent pour montrer de quoi ils sont capables.
Je soutiens à 100% la proposition de la loi. Si elle arrivait à être votée, je pense qu'elle recadrerait un temps soit peu la symbolique qui a toujours existé et qui consistait à enterrer nos morts dans la dignité. La symbolique a déserté le forum et a laissé place à des dépenses folles.
Michel, quant à lui, reconnaît l'exagération dont font montre certains par orgueil ou civisme. Mais au lieu de passer par une loi pour conscientiser, il propose une sensibilisation.
Je ne pense pas que le mort a réellement besoin d'autre chose que d'un cercueil et d'une tombe. Tout le reste, c'est pour les vivants. Et c'est dans notre culture. Maintenant, sommes-nous prêts à nous aliéner à ce point? Notre société a perdu ses repères de base par rapport à ces cérémonies. Aujourd'hui, on veut démontrer aux voisins, parce que lui, il a mis 4 millions pour enterrer son père, il faut que j'en mette 10 millions. La solution n'est pas une loi, à mon avis. La solution, c'est le développement social.
De Cotonou, c'est notre Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Technologie. Des chercheurs américains ont dévoilé un prototype d'un téléphone portable sans batterie en utilisant une technologie qu'ils espèrent voir un jour sur le marché au service du grand public. Le téléphone est le fruit des travaux entrepris par un groupe de chercheurs à l'université de Washington à Seattle. Gabi Dorsil.
Le téléphone portable du futur pourrait se recharger à partir de faibles quantités d'énergie émanant de fréquences radio appelées ondes FR.
Hi there.
Salut.
Hi, I'm calling.
Salut, j'appelle d'un téléphone portable sans batterie.
I can hear you pretty well.
Je peux vous entendre très bien.
Ce n'est peut-être pas comparable à l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell. Toutefois, ces deux chercheurs de l'Université de Washington qualifient leur projet d'extraordinaire. Shyam Golakota est l'un d'entre eux.
Ce téléphone sans batterie est un pas important en termes de fonctionnalité des appareils sans batterie. Car maintenant, nous disposons d'un périphérique en continu capable de communiquer en permanence, ainsi que de recevoir des données, essentiellement un téléphone.
Les téléphones cellulaires n'utilisent-ils pas trop d'énergie pour fonctionner sans pile? La réponse est affirmative, nous dit le chercheur Vamsi Tala.
Prenez un téléphone portable typique. Il consomme effectivement des centaines de milliwatts pour des appels et il est impossible de créer un appareil comme ça sans batterie. Donc, ce que nous avons fait en premier lieu, c'était de réduire cette consommation d'énergie.
Et cela fait, ils ont eu un téléphone pouvant profiter de l'énergie électromagnétique existant tout autour de nous sous forme de fréquences radioélectriques.
Les ondes FR ambiantes sont tout autour de nous. Par exemple, votre station FM diffuse des ondes radio, vos stations AM le font, vos stations de télévision, vos tours de téléphone cellulaire, ils transmettent tous des radiofréquences.
L'appareil s'alimente donc de l'énergie ambiante. Vous ne pourrez pas tout faire. Ce ne sera pas votre smartphone actuel, mais vous ne perdrez jamais de connexion, même quand la pile est complètement déchargée, souligne Vamsi Tala.
Nous sommes vraiment enthousiasmés par cette technologie et l'Université de Washington a une adresse IP pour cela et nous recherchons des avenues pour la commercialiser et la mettre à la disposition du public.
L'équipe compte avoir un produit prêt pour le marché en moins d'un an.
ces notes de musique pour faire sourire Souleymane Tarawalé à la console et vous aussi, nous l'espérons, de l'autre côté du transistor. C'est la fin de cette édition mise en onde par Georges Léonard Sagno. À la console, je l'ai dit, c'était Souleymane Tarawalé. Présentation Anastasie Tudiech. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie, elle vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Cette phrase est de mon cher confrère, j'ai nommé Eric Maniarakiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.